À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. C'est l'actualité au niveau national, le vote du budget. Et il en sera question dans Séquence midi avec le sénateur de la Vienne, Bruno Belin. Ce sera en seconde partie d'émission. On accueillera aussi un invité avec notre partenaire Le Toit du Monde. Mais tout de suite, on parle carnaval avec Adeline Méjouan qui est co-directrice de Poitiers Jeunes. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Et Quentin Plinguet, adjoint à la jeunesse à la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être réunis aujourd'hui pour une annonce qui a été faite il y a quelques jours. Le carnaval ne sera pas organisé par Poitiers Jeunes. Comment avez-vous pris cette décision?
Vous pensez bien que ça n'a pas été une décision facile pour l'association. C'est un vrai crève-cœur. Hein. Poitiers Jeunes porte cette manifestation depuis plus de 30 ans aujourd'hui. C'était à la base une commande des anciennes municipalités qui a été complètement intégrée dans le programme d'action de l'association. On en est arrivé là, comme plein d'associations actuellement, hein, dans un contexte difficile à la fois d'inflation, hein, des charges fixes, et puis de diminution de certains de nos financements. Et c'est vrai que Poitiers Jeunes, qui se définit comme une association où les droits culturels sont vus comme un accélérateur de citoyenneté, porte à la fois un projet culturel qui est aujourd'hui son phare, on va dire. Tout le monde connaît normalement les expressifs qui se déroulent en octobre. Et puis, en effet, la manifestation du carnaval, en plus d'un projet jeunesse qui a lieu sur toute l'année et qui s'adresse à toutes les jeunesses, en particulier celles qui ne trouvent pas d'espace dans les endroits existants aujourd'hui à Poitiers, sur des sujets d'environnement, de solidarité, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a un projet pluriel qui nous met à la fois dans les acteurs de l'éducation populaire, mais aussi dans les acteurs des arts et de la culture. Et cette mixité fait qu'on a un agencement financier un peu complexe, avec des sources très variées. La ville, aujourd'hui, c'est notre premier financeur, parce qu'il y a un partenariat très fort qui date de la naissance, en fait, de l'association, hein, avec la ville de Poitiers. Et c'est vrai que depuis 2021, l'association avait alerté la ville, hein, sur des difficultés à amortir les augmentations de coûts fixes et avait déjà signalé que le carnaval serait peut-être une variable d'ajustement. Alors pas parce qu'on ne tient pas à la manifestation, attention, hein, je le redis, pour nous c'est un moment très fort dans la vie de l'association, c'est une cinquantaine de bénévoles qui se mobilisent, c'est 200 à peu près acteurs d'associations locales qui sont aussi mobilisés, un partenariat fort avec les maisons de quartier, donc on y tient vraiment. Mais c'est aujourd'hui la seule manifestation, la seule action qui a un financeur unique, qui est la ville de Poitiers. Donc en 2023, quand on avait eu la baisse de 40 000 euros par la ville de Poitiers, comme on l'a su quelques semaines avant le carnaval, bien évidemment, le seul levier qui restait, c'était les expressifs. Et en fait, la punition est arrivée directe. On a perdu 25 000 euros supplémentaires de la part de nos autres cofinanceurs. Donc aujourd'hui, l'association sait qu'elle est arrivée à un point de tension où la moindre baisse sur les expressifs fait tomber directement la somme de ces financements. Donc c'est pour ça que dès la fin d'année dernière, dans un rendez-vous avec Quentin Plinguet, que je remercie d'être présent aujourd'hui et je remercie de son écoute tout au long de nos réflexions, hein, sur ce sujet, parce qu'on l'a fait ensemble aussi, c'était la seule décision qui réglait le problème, entre guillemets, rapidement, puisqu'on avait un projet budgétaire 2025 à moins 38 000.
Et donc, ça collait à peu près, effectivement, avec le coût de ce carnaval. Alors, pour rassurer nos auditeurs, auditrices, le carnaval aura bien lieu. La ville a décidé de le prendre à sa charge. Là aussi, comment s'est faite cette décision?
Eh bien, cette décision elle s'est faite suite à la décision du CA de Poitiers Jeunes de pas de suspendre en tout cas le carnaval en 2025. Et nous, on s'est dit que le carnaval était un moment important dans la vie des Poitevins, que c'était un événement très attendu et que on pouvait pas ne pas avoir de carnaval. Et donc, on a réfléchi à comment on pouvait nous prendre en charge l'animation d'un carnaval pour 2025 en régie municipale, donc dans un délai très court. de quelques mois à peine pour le préparer. Et donc, on a mis au travail très rapidement des services qui savent faire des événements d'ampleur en très peu de temps. Et donc, on a pris cette décision de faire un carnaval municipal tout de même. Et puis, on a fait un temps d'échange quand même avec Poitiers Jeunes pour que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas une impression qu'on leur retire un peu quelque chose. L'idée, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment de dire, comme cette année, Poitiers Jeunes ne peut pas faire le carnaval, on veut qu'il y ait quand même un temps de carnaval.
Quand on voit les impacts directs de baisse de subventions sur le milieu associatif local, est-ce que la ville envisage de revoir sa politique de subvention pour les associations culturelles et jeunesse à l'avenir ?
Alors pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Pour cette année, en tout cas côté jeunesse, il n'y a rien d'engagé sur des potentielles baisses de subventions, en dehors bien évidemment de celle de Poitiers Jeunes qui correspond uniquement au carnaval. Du côté jeunesse, on n'est pas sur cette logique-là. Il y a un vrai besoin de jeunesse sur le territoire. C'est pas le moment de baisser des subventions encore aux acteurs jeunesse.
Et comment se déroule du coup un peu la passation là, entre les deux ? Est-ce qu'on s'attend au même type de carnaval que le fait d'habitude Poitiers Jeunes, avec toutes les maisons de quartier, avec tout ce lien sur le territoire ?
Alors, on verra bien ce que ça donnera le carnaval. Comme je l'ai dit, ça va être un temps. On a un temps très court pour le préparer, là où Poitiers Jeunes met de très nombreux mois pour le préparer avec les maisons de quartier, en réunissant l'ensemble des maisons de quartier, en tout cas celles qui le veulent. On va essayer de mobiliser aussi les maisons de quartier, sachant que on n'a pas la force de frappe d'une association qui vient sur plusieurs mois dans les maisons de quartier. Mais dans le temps qui nous est imparti, on va essayer de faire au mieux, en tout cas.
Il y a une réunion de transmission en fait qui est prévue où les services de la ville compétents vont être présents en fait. Ça aura lieu a priori à Poitiers Jeunes et justement l'objectif c'est de pouvoir faire ça en bonne intelligence puisque pour l'asso il est important en effet que ça se passe bien aussi pour la ville dans cette organisation. Donc nous on a déjà commencé à faire le lien avec les assos qui nous avaient sollicité. En effet le carnaval on commence à le préparer dès le mois d'octobre après la fin des expressifs. Donc c'est vrai que là on comprend que pour la ville ce soit compliqué et puis bien évidemment la posture municipale et pas la posture associative. Donc c'est pour ça que l'association a bien évidemment accepté la proposition de la ville d'organiser une transmission.
Et l'objectif ce serait, enfin là c'est une seule fois, c'est temporaire, est-ce que votre objectif ce serait de reprendre l'organisation de ce carnaval ?
Aujourd'hui on ne peut pas répondre, on accuse quand même une baisse de 20 000 euros comme vient de le dire Quentin, alors que l'association comprend bien évidemment, hein, c'est une part du budget qui est repris pour pouvoir organiser le carnaval, pour rester dans l'enveloppe de la politique jeunesse actuelle de la ville. Néanmoins, c'est 20 000 en moins. Le Pass Culture, la semaine dernière, nous avons appris que les fonds étaient gelés. On avait 2 à 3 projets financés par Pass Culture. Voilà, les annonces de baisse quand même se multiplient. Et aujourd'hui, ni la région ni le département ne peuvent nous répondre puisqu'ils attendaient le vote du budget par l'État, sachant qu'ils n'avaient pas encore de visibilité sur leur propre budget. Donc aujourd'hui, on n'est sûrement pas au bout de nos surprises, voire mésaventures. Et Poitiers Jeunes, ces dernières années, a déjà fait énormément d'économies, passant de 6 postes à 4 postes, diminuant l'ensemble de ses coûts frais généraux et autres. Donc là, on sent aussi qu'on est à l'os. Donc c'est pour ça qu'on a démarré dès fin d'année dernière un travail autour de notre nouvelle feuille de route 2025-2027, qui correspond aussi à une préparation de la future convention pluriannuelle d'objectifs qu'on resigne avec la ville en fin d'année. Donc l'idée, ça va être de travailler à la fois en interne sur le nouveau projet Poitiers Jeunes, mais surtout sa nouvelle feuille de route en fonction de nos capacités financières réelles, et de le travailler en lien avec le service jeunesse qui va travailler sur sa propre feuille de route. Voilà, et donc on est ravis d'avoir enfin des interlocuteurs au niveau de la jeunesse parce que ça faisait de nombreuses années qu'on n'avait plus personne. Et là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de deux agents, que ce soit Anthony Brune ou Pauline Alamichel, on a trouvé des interlocuteurs avec qui on va enfin pouvoir faire cet échange, ce dialogue et retravailler un projet en bonne intelligence pour le territoire et la jeunesse.
Et justement, quelles mesures la ville prévoit-elle pour soutenir Poitiers Jeunes dans sa restructuration, dans son nouveau projet associatif ?
Eh bien, pour l'instant, on est attentif en tout cas à leurs besoins, à leur future feuille de route. Et puis, Adeline l'a dit, on va travailler très rapidement sur la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs qui nous lie, qui prend fin en fait cette année. Et donc, l'idée, c'est de redéfinir ensemble ce que l'un attend de l'autre dans cette convention. Et puis, on va pouvoir comme ça mieux définir, peut-être réajuster certaines choses, certains attendus de la ville, certains attendus de Poitiers Jeunes vis-à-vis de la ville, ce que Poitiers Jeunes est en capacité aussi de faire. Hein. L'idée, c'est d'être le plus réaliste possible et pas de se dire on reprend celle du passé et on la recopie et puis ça roulera. Non, l'idée, c'est de vraiment faire un vrai travail de fond sur la fin d'année qui va y avoir.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Adeline Mégevin, co-directrice de Poitiers Jeunes, et Quentin Plinguet, adjoint à la jeunesse à la ville de Poitiers, d'être venu nous parler donc de ce carnaval de Poitiers qui cette année ne sera pas organisé par Poitiers Jeunes, mais il aura bien lieu le 22 mars, organisé cette fois par la ville. Merci à tous les deux.
Merci de votre invitation.
On continue en musique avec Rock et Dudu. Ensemble, ils évoluent sur les scènes queer et militantes et proposent un set aux influences éclectiques allant du rap actuel à l'électropop, du punk à la techno. Leur musique mélange des textes engagés, sombres et émo, toujours revendicatifs. Voilà le titre « Bagarre ».
Nouvelles-y confondre, la disto qui fait mal au crâne. Je suis dernier dans Mario Kart, mais je reviens sur mon étoile. Y'a des robots sur les toits, plus de chi sous mes doigts. Qui va demander ton prénom, toi en dollars, tu veux quoi? Non, elle va la baisse, y'a des fachos partout. Je suis dans ma peur, mais j'aimerais dire on casse tout. La peste arrive, on sort plus de chez nous. Et pourtant faut les voir. Dead, on vous déteste tous les jours. J'étais calme dans ma tête, je cours. Je reste dans ma chambre, je pète un RSA. Mais bordel, faites fois 10 sur mon RSA. On sait dans quelle poche est la thune, j'dirais pas que c'est troublant. T'as beau arroser le sol, y'a un qui pousse sous le banc. J'me fais canner, c'est pas par un cœur pour eux, j'suis trop blanc.
Un million pour un assassin, pas d'accusé sur le banc.
J'sais pas comment faire cette fois, c'est taille. Et fin d'enfer s'il y a personne pour se taille. La tête sous l'eau, on respire par la paille. On va pas se taire parce que ça y est. Personne nous dira comment faire. Blablabla. Rien qu'à personne qui nous entoure. Surtout pas moi. Ils savent pas le score qu'on prépare. J'ai dit c'est tout pour mes pétards. Bagarre. Je saigne, je crois qu'ils m'ont eu. J'ai si peur, mon cœur. Je me sens même plus vrille. Le stress du béton qui nous empare. On se battra encore contre des moulins cendres. Si j'ai le goût pour eux, je serai pas ta main. Ni la faire tant qu'on peut. Je me sens même plus vrille. Mais je reste. Mais je reste bébé tant qu'il nous a pas. Mais je reste bébé tant qu'il nous en pas. On se battra encore contre des moulins sombres. Contre des moulins sombres.
Et surtout, la confusion dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Et on accueille Bruno Belin, sénateur républicain de la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, dans ce jour crucial, on va dire, pour le budget. Enfin, ça fait quelques mois que c'est crucial. Quels sont les enjeux aujourd'hui sur ce vote du budget? Après, on va revenir sur le travail que vous avez fait au préalable au Sénat.
Il est capital que le budget soit adopté, capital pour la France, capital pour l'ensemble des Français, les collectivités, les entreprises. Tout le monde est suspendu à ce vote et moi je pense aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation depuis le 4 décembre, qui vient s'ajouter à une gravité accumulée depuis des années, en tout cas celle depuis le 4 décembre, c'est très concrètement un coût de 3 milliards d'euros par semaine. Et donc, on n'a pas les moyens, on n'a pas le luxe que cela dure trop longtemps. Donc, concrètement, aujourd'hui, l'Assemblée est saisie par la demande du Premier ministre du recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, ce qui va reporter donc le vote mercredi, puisqu'il y a une motion de censure de déposée par une partie de la gauche. Le Sénat, quant à lui, votera mardi et adoptera sans surprise l'ensemble des textes. Et donc, on sera fixé mercredi selon le vote à l'Assemblée. Alors, de deux choses l'une, ou bien tout est adopté et voilà, on pourra commencer à voir la fin du tunnel de cette période donc, qui, depuis deux mois, nous a plongé dans une grande instabilité. Ou alors, c'est rejeté, et là, ça va être un vrai séisme pour l'économie, pour les collectivités, parce qu'il faudra reprendre tout à zéro le travail. Là, on avait pu, grâce à notre demande à la Commission des finances du Sénat, repartir sur le travail qu'avait déjà fait le Sénat jusqu'au 4 décembre. Là, il faudrait tout reprendre avec sans doute un délai de l'ordre de 10 semaines, 10 à 12 semaines. Donc, vous voyez, ça nous mène à un moment où les collectivités seront complètement dans le noir alors qu'elles doivent voter leur budget. Les entreprises, sans doute avec l'obligation de ne plus avoir des commandes certifiées en face, et puis des contribuables qui seraient appelés à payer l'impôt alors qu'ils ne le font pas aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça va. La récession qu'on craint arriverait si l'Assemblée votait une nouvelle censure mercredi.
Alors, vous avez pu effectivement au Sénat débattre des différents points de ce budget. Quels ont été justement les éléments les plus débattus lors de l'examen du texte au Sénat ?
Alors, ce qui n'est pas surprenant du Sénat, l'enjeu des collectivités, c'est-à-dire continuer à permettre aux collectivités d'avoir les moyens de conduire leurs projets. Les projets des collectivités, c'est plus de 70% des investissements en France. Et donc, ça, c'était essentiel. Donc, moyens des collectivités. Alors, sans être très technique, mais l'abandon du rejet du FCTVA, le maintien des dotations aux collectivités. Enfin, voilà, on a été très vigilants là-dessus. Ça, c'est extrêmement concret pour les élus. Mais ce qu'on a surtout voulu, c'est aussi faire passer le message essentiel de la construction du budget que l'on, la façon dont on voit, c'est-à-dire ce n'est pas par l'emprunt encore qu'on s'en sort. On a trop de dettes et la dette est un poison. Ce n'est pas par la fiscalité. Il y a vraiment eu des erreurs dans le langage du gouvernement quand on dit on va fiscaliser les retraités. Si vous fiscalisez des retraités, vous touchez à la consommation directement. Donc ça aurait été une vraie erreur. C'est par l'économie du train de vie de l'État, au sens même du fonctionnement, qu'il était essentiel qu'on en fasse des efforts. Le Sénat a voté un budget avec 33 milliards d'euros d'économies, dont 10 milliards qui sont venus se rajouter sur déjà ce que l'État avait imaginé, ce que le gouvernement avait proposé. Et puis, on lance surtout un gros travail encore qui est parti, de voir comment il est possible de faire d'autres économies très vite. Il y a un tas d'agences redondantes avec les services de l'État. Donc, c'est ce travail-là où il faut absolument baisser la voilure de l'État sur un certain nombre de dépenses, affirmer au contraire que celles qui relèvent du régalien sont indispensables, la défense, la sécurité, la justice, l'éducation nationale, la santé, l'intérieur. Ça, c'est les vraies compétences de l'État. Et donc, il faut affirmer ces compétences-là dans le budget. Et puis, par ailleurs, moi, je suis un farouche partisan de décentraliser plus, parce que plus l'échelon est en proximité, plus il est efficace. On le sait depuis 40 ans. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des doublons, ça ne sert à rien d'avoir un millefeuille administratif. Et laissons faire les gens qui, sur le terrain, vont pouvoir faire vite. Et quand on fait vite, on fait souvent moins cher.
Alors, vous êtes aussi rapporteur spécial du budget sécurité. A priori, quelles seront les avancées pour les forces de l'ordre dans ce budget ?
Alors, le budget de sécurité est en progression. Et donc ça vient conforter mon propos précédent, de dire qu'on est sur un vrai sujet régalien que ce qu'est la sécurité, c'est-à-dire le budget de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité routière. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 24 milliards d'euros. Bien évidemment, il y a des enjeux sur ce qui peut se passer en Outre-mer. Il y a des besoins en équipement, il y a des besoins en moyens humains. Et puis, la volonté, là aussi, de renforcer sur le terrain les équipes, qu'elles soient vues, aussi bien police nationale, gendarmerie. Il y a un vrai sujet sur l'immobilier, notamment j'avais fait un rapport sur l'immobilier de la gendarmerie nationale, qui aujourd'hui n'est plus envisageable sur des compétences totalement domaniales, c'est-à-dire où l'État paye entièrement, et donc trouver des nouveaux montages. On a des besoins dans la Vienne, gendarmerie de Fontaine-le-Comte est partie, celle de Loudun va se refaire, celle de Civray va se refaire, celle de Neuville-de-Poitou aussi. Donc tout ça, ce sont évidemment derrière des enjeux en termes de moyens. C'est pour ça que j'ai été très vigilant à ce que ça soit dans les budgets de cette année et assez sacralisé, selon mon vieux principe, qu'il faut mieux tenir que courir. Donc le budget de sécurité intérieure est globalement en progression. On est sur des vrais sujets liés aux besoins de l'État. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Il y a les enjeux narcotrafiques, il y a une proposition de loi qui est d'ailleurs votée très prochainement devant le Parlement. On est sur tous ces enjeux-là dans le sujet de la sécurité intérieure.
Donc en tout cas, les coupes budgétaires iraient plutôt sur l'écologie, la culture, l'agriculture, la recherche et l'enseignement supérieur. Autre projet de loi
Il faut, j'apporte une nuance à vos propos parce qu'on n'a pas fait, je suis dans un on collectif et je m'inclus dans ce collectif, puisque je suis vice-président de la commission des finances du Sénat, et donc évidemment, tous les mercredis, on a regardé ça de très près. On n'a pas dit, il faut couper, par exemple, couper la culture, parce que la culture, c'est optionnel. Non, c'est pas, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On a regardé très concrètement l'opportunité et l'effectivité des politiques. Je vais vous prendre un exemple qui a d'ailleurs été souligné par la Cour des comptes, le pass culture. Le pass culture, effectivement, est remis en question. Il rapportait, si on peut utiliser ce verbe, 150 millions d'euros, quand il coûtait 450 millions d'euros. Donc, il y a un moment donné, effectivement, il faut s'interroger sur la pérennité de ces politiques-là. Ce n'est pas parce qu'elles relèvent du domaine culturel, mais c'est parce que c'est du domaine où elles coûtent. C'est comme le service national universel, qu'on pourrait assimiler, évidemment, à un lien de citoyenneté, de sécurité, d'enjeux de vie civique. À un moment donné, c'est la question de combien coûte la politique voulue ou proposée par rapport aux enjeux qu'elle pourrait avoir sur le terrain. Donc c'est comme ça quand on a regardé les choses, politique par politique, mission par mission. Il y a une trentaine de budgets spécifiques dans le budget de la nation, et c'est de là qu'a abouti la copie qui est proposée demain et après-demain au vote du Parlement.
Bon, le pass culture, c'est effectivement un coup, puisque c'est une ouverture à la culture pour les plus jeunes, comme par exemple financer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information proposés par Radio Pulsar dans des établissements scolaires. Voilà ce que ça peut faire disparaître. En tout cas, l'autre...
Mais les subventions concernant les radios ont été d'ailleurs maintenues.
Tout à fait.
Suite à l'excellent rapport et proposition du sénateur Jean-Raymond Hugonnet.
Mais là, je parlais de notre mission d'éducation aux médias. En tout cas, il y a un autre budget, on va terminer par ça, c'est celui de la sécurité sociale. Là aussi, a priori, utilisation du 49.3 ?
Oui, je vous le confirme, ça a déjà été annoncé par le Premier ministre, il veut utiliser le 49.3, ce qui leur permet, au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir une adoption de texte en discussion. Alors là, il y a une réelle urgence, mais on le dit depuis le début, parce que si effectivement nous avons pu, pour le budget général de l'État, bénéficier d'une loi spéciale pour pouvoir commencer l'année, en ce qui concerne le projet de loi de finances de sécurité sociale, c'est-à-dire tous les budgets d'assurance maladie, de fonctionnement des hôpitaux, la sécurité sociale, depuis le 1er janvier, l'État emprunte. Et donc nous empruntons pour pouvoir faire tourner cette grande maison à laquelle nous sommes tous attachés, qui est la sécurité sociale. C'est le fonctionnement des hôpitaux, c'est le fonctionnement des soins. Là aussi, j'espère que ce budget sera appelé. C'est une question vraiment de responsabilité, parce que là, ne pas pouvoir faire tourner les hôpitaux, les services de soins, l'assurance maladie, ça deviendrait très catastrophique, surtout pour les plus fragiles.
Merci beaucoup Bruno Belin pour votre éclairage sur ce vote du budget et donc le 49.3 qui va être proposé dès cet après-midi avec une motion de censure qui risque de suivre. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes sénateur de la Vienne. Bonne journée.
Au revoir, merci.
Et Dominique Royou pour Le Toit du Monde accueille Flora Penaud, chargée de mission Santé Gidio, spécialisée dans le soutien des populations syriennes réfugiées par les couloirs humanitaires.
Bonjour Flora Penaud, tu es chargée de mission à l'association San Egidio. Tu vas commencer peut-être par nous expliquer les objectifs de cette association et puis après on verra peut-être un peu plus tard les projets pour 2025.
Bonjour Dominique. Alors oui, je suis chargée de mission couloir humanitaire à l'association Saint-Égidio France. Donc le siège de l'association est basé à Paris et donc moi, je m'occupe spécialement de l'accueil de familles syriennes en France qui sont venues par une voie légale depuis le Liban. Et donc l'accueil est essentiellement privé. En fait, on sollicite des réseaux de citoyens accueillants dans des paroisses, des maires accueillants qui mettent à disposition un logement. Et donc l'accueil est sur un an. Et à chaque fois, on a un groupe de bénévoles d'une dizaine de personnes qui va prendre en charge l'accueil de A à Z d'une famille syrienne.
Et à Poitiers, ça représente un volume important ?
Exactement. Alors à Poitiers, on a eu 3 familles qui ont été accueillies. Une à Poitiers Centre, une à Migny-Auzance et une autre à Buxerolles. Donc à chaque fois, nous avons un groupe différent d'accueil qui accompagne la famille au quotidien.
Et ce n'est pas lié à une confession particulière ?
Non, pas du tout. En fait, donc Saint-Égidio, on est dans le milieu catholique, mais la sélection des familles des couloirs humanitaires se fait sur des critères de vulnérabilité. Donc en fait, ces familles, elles sont auditionnées plusieurs fois au Liban. Puis ensuite, elles passent un entretien au consulat français de Beyrouth qui va vraiment regarder si elles peuvent demander un visa au titre de l'asile pour venir en France légalement.
Et est-ce que tu penses que une partie de la résolution de la crise en Syrie va atténuer un peu les couloirs humanitaires des familles syriennes ou...
Alors justement, avec l'annonce de l'arrêt de l'enregistrement des demandes d'asile syriennes en France, beaucoup nous ont demandé si notre travail s'arrêtait, mais non, en fait, on continue. Donc des équipes sont présentes au Liban, des familles sont passées encore au consulat récemment et nous continuons l'accueil au quotidien.
Et alors, pour 2025, des perspectives toujours intéressantes ?
Donc on veut continuer toujours les couloirs humanitaires. Des négociations sont en cours de toute façon avec les ministères avec qui nous avons un protocole d'accord, le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, pour continuer cet accueil.
Un dernier chiffre pour Poitiers, ça représente combien de familles à peu près ?
Pour Poitiers, donc 3 familles, une famille
Le département de la Vienne aussi.
Il n'y a que sur Poitiers pour la Vienne, mais 3 familles, donc ça fait environ une quinzaine de personnes qui ont été accueillies sur le territoire.
Et qui vont rester à Poitiers pour qui c'est la destination finale ?
Oui, souvent en fait ce qu'on constate c'est que les familles restent dans leur département d'accueil. Et donc là, à Poitiers, on a quand même un bassin d'emploi avec certaines opportunités. Donc souvent, les familles restent dans leur lieu d'accueil. Elles partent de leur hébergement temporaire vers un logement social ou autre. Mais pour Poitiers, c'est prévu qu'elles restent.
Merci Flora, des bonnes perspectives pour cette association.
Merci beaucoup.
Et merci Dominique Royou du Toit du Monde. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Il est présenté par Rachel.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, direction l'exposition « Dialogue féminin », une ode à la diversité des regards portés sur la femme. En conjuguant leur sensibilité et leur technique, Sophie Dupont et Laetitia Arty tissent une conversation artistique. Ça se découle à Key Gallery jusqu'au 15 février. Côté exposition encore, pour et avec les J. Des jeunes artistes de 16 à 25 ans exposent leur œuvre. Des dessins en crayon de couleur, de la peinture, de la BD. Ils ont tous un talent remarquable et souhaitent le partager au plus grand nombre. Venez les découvrir et les aider à s'affirmer en tant qu'artistes, à susciter du lien social. C'est aussi l'occasion pour eux de se créer un réseau en rencontrant des personnes susceptibles de les aider dans leur avenir. L'expo est gratuite et accessible durant les horaires d'ouverture de la mission locale jusqu'au 10 mars. Ensuite, direction la Diète Trouvaille avec le film Le miroir aux alouettes de Yann Kadar et Almar Klaus. Dans un village slovaque, Tono, menuisier sans histoire, loin des idées fascistes, accepte de son beau-frère, chef de la milice locale, la gérance d'une mercerie appartenant à une juive. Âgée et presque sourde, elle ignore tout des nouvelles lois raciales. Elle le prend pour un assistant. Une complicité inattendue naît bientôt entre ces deux êtres que tout oppose. La séance est à 21h au Dietrich. Et enfin, côté cinéma encore, mais cette fois-ci au Tap Castille, la chambre d'à côté de Pedro Almodovar. Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes. La séance a lieu à 16h.
Merci beaucoup Rachel, toi on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin. Espace Matin c'est du lundi au vendredi entre 8h et 9h. Sur Pulsar ce soir, retrouvé à 18h And The Tap Drips, émission féministe en français et en anglais. À 19h c'est X-Bulle, de retour du festival de la BD d'Angoulême. À 20h bien sûr c'est Punks et de 21h à 23h ce sont des lives dans Scrognogne. C'était Grégory à la réalisation technique de cette émission, merci à lui. Je vous souhaite une bonne après-midi en musique sur Radio Pulsar et on se retrouve demain pour de nouvelles actus.